À voix nue, Laurent Goumard s'entretient avec Emmanuel Huyn. Aujourd'hui, tout contre. Tout contre Emmanuel Huyn, c'est le titre que vous donnez à un duo de 1998, un duo que vous dansiez avec Dimitri Chamblaz. Mais c'est aussi une expression qui pourrait qualifier votre travail de collaboration. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme de collaboration est vraiment approprié avec d'autres disciplines et les arts plastiques notamment. Les pièces de cette époque reconduisent le lien avec des plasticiens sous différents modes, dans une stratégie que vous qualifiez vous-même de décadrage. Alors il y a eu Vasque Fontaine avec Frédéric Lormeau, modèle, modèle, modèle avec Iri Dietmann, entre autres. Puis il y aura une année passée dans les musées, on y reviendra. Mais qu'est-ce que vous cherchiez dans ce rapport aux arts plastiques?
Alors, en effet, une stratégie de décadrage, c'est-à-dire de sortir de la recette chorégraphique, du lieu chorégraphique et de la façon de penser de la danseuse et de l'apprenti chorégraphe. C'est-à-dire je crois que dans Tout contre, je vais revenir sur la pièce, j'ai senti une limite pour moi-même dans la façon de penser la danse. C'est-à-dire, je me suis sentie déjà enfermée dans un habitus personnel, c'est-à-dire dans une forme d'écriture ou de réponse à moi-même qui m'a vraiment fait limite très très violemment au moment de Tout contre. Et je dirais que les amitiés artistiques, parfois les collaborations, les commandes que je peux faire à certains artistes. Là, je pense à Nicolas Flock, la commande des tables pour la pièce Bore, ou le fait d'être interprète de certaines performances commandées, du coup écrites par les plasticiens, me permet d'observer aussi comment ils pensent leur œuvre, et donc d'une certaine façon d'apprendre moi-même, de me dégager d'une forme de pensée. Donc je crois que le lien avec les plasticiens, il est très vif en fait. Ça peut être des discussions, ça peut être simplement de regarder des œuvres, d'avoir une amitié avec certains. C'est vraiment presque un apprentissage permanent de comment penser autrement pour moi, de penser autrement et de comment penser aussi en acte autrement, de penser en mouvement autrement. Donc je pense à une amitié aussi, à des discussions avec Gabriel Orozco, ou le fait de regarder certaines de ses œuvres, je m'aperçois d'abord que ça me donne énormément d'énergie, et qu'ensuite je dérive avec cette façon qu'il a, ou que certains artistes proches ont, de penser. Je dérive avec ça pour moi-même. Et c'est une forme d'apprentissage que je cherche en fait.
Vous aviez déjà figé quelque chose avec Tout contre? C'était au niveau de la
Mais
gestuelle, c'était
je pense que
au
moi
niveau
je pense que
de
c'était
la
au
pensée
niveau
de la danse?
de l'écriture, pour moi de l'écriture. C'est-à-dire, j'expérimentais Mua, les choses étaient écrites, mais c'était pas ce qui était important, puisque c'était plutôt une forme d'expérience, effectivement, d'apparition et de disparition de mon corps qui était mise en jeu. Et je dirais, l'écriture de Mua, c'est plutôt l'écriture globale, d'avoir mis ensemble ce corps, cette lumière et ce son. C'est ça l'écriture pour moi de Mua qui est forte ou qui est importante. Après Tout contre, même si j'avais posé aussi la question du lien, de la limite de la peau de l'autre, il me semble que dans la danse elle-même, c'est-à-dire que dans la partition chorégraphique, j'ai éprouvé des limites et des difficultés à ne pas tourner en rond, à finalement incorporer. J'ai incorporé la question du deux, c'est sûr, mais je l'ai trouvé dans sa résolution. Non pas pauvre, mais sèche. Je trouve qu'elle ne s'ouvrait pas, en fait. Et si je pense aujourd'hui au duo Avida Énorme, La vie énorme, qui est la dernière pièce que j'ai faite et qui est effectivement un duo, pour moi, c'est une pièce qui s'ouvre. C'est une pièce plus chaude, plus. Oui, qui s'étale plus. Et Tout contre est plus dur pour moi. Donc, oui, j'ai eu le sentiment de ma propre limite, de ma propre limite chorégraphique, alors que j'avais, en fait, jamais écrit de la danse comme ça. Sans doute, je me suis aperçue que ce n'était pas l'endroit dans lequel je devais être. Et le fait d'être déjà très en lien avec certains artistes plasticiens, à l'époque, c'est vrai, donc Frédéric Lormeau me propose un protocole d'improvisation. m'oblige à certaines formes aussi de répétition d'un rituel. En même temps, je crois que je rencontre à cette époque la Dittmann, qui est une espèce de monceau d'énergie qui prépare cette performance avec moi en buvant d'excellents vins rouges. Et moi, je le suis parce que je n'ai pas envie d'être en rade. Mais je suis complètement désorganisée dans ma façon de penser, même dans ma façon d'agir. Mais je le vois faire, je le vois changer aussi dans le lieu où on travaille de jour en jour. Disons qu'avec eux, j'apprends à absolument pouvoir retourner une idée, c'est-à-dire changer d'idée. Une idée que j'avais pour un médium, bah, de le reporter sur un autre. C'est-à-dire, c'est vraiment, oui, je crois que c'est des endroits de fabrication où je me mets à observer, je me mets à pomper, je me mets à incorporer, à ingurgiter moi-même des choses en espérant que ça va m'obliger à me déplacer moi-même. Si je reviens à tout contre, d'abord, je me souviens de comment j'ai choisi ce titre. Je vivais à l'époque avec le cinéaste Jean-Paul Sivérac et je cherchais un titre. Et notre relation était à la fois heureuse et difficile. Et je me dis, c'est ça, c'est contre quelqu'un et c'est tout avec lui aussi. Donc je crois même que c'est lui qui m'a parlé de ce titre, de cette phrase de Sacha Guitry, « tout contre vous ». Et ça m'a paru être absolument ce qu'on vivait et ce que je cherchais dans cette pièce. C'est-à-dire, tout contre, c'est à la fois la fusion, c'est la pièce qui essaye de montrer une forme de fusion avec l'autre et de montrer son impossibilité, puisqu'il y a toujours la limite de la peau et la limite de ce que pose l'altérité. Donc dans tout contre, il y a vraiment un travail sur la distance qu'il existe entre deux peaux. Et je me suis vraiment, encore une fois, physiquement et au pied de la lettre, obligé à étudier ce que c'est que cette peau et ce que c'est que cette distance qu'il y a entre la peau quand on place deux corps dans un espace. Et c'est vrai que, on va dire, dans la façon de travailler, je prends souvent les mots au pied de leurs lettres, au pied de leurs lettres physiques. Donc tout contre, c'est tout et contre, et c'est cette limite qui est, ou cette fusion qui est travaillée.
Pour revenir, on fait sans cesse le va-et-vient entre tout contre et le travail avec les plasticiens, puisque c'est vraiment la même période. Est-ce que vous prenez en compte le fait que vous travaillez avec des plasticiens hommes, c'est-à-dire de l'ordre de la collaboration, alors que vous visitez des expositions d'artistes femmes, Emmanuelle Huyn?
J'avais jamais pensé à ça. C'est tout à fait vrai. Finalement, j'ai collaboré avec des hommes et j'ai visité des femmes. C'est très juste, hein, votre remarque. Je vois le nom de Lisa Nelson qui est juste marqué pour me rappeler un autre événement important de l'année 98.
Oui, qui va déplacer votre regard sur la danse.
Absolument.
Justement, votre regard sur la danse n'est pas seulement déplacé par des plasticiens hommes, mais aussi par une danseuse.
Oui, par une danseuse, improvisatrice, chorégraphe, laboureuse dans le Vermont, jardinière, jardineuse, compagne de route de Steve Paxton. Cette femme rencontrée donc durant le stage On the Edge en novembre 98, organisé par Mark Tompkins, il y avait aussi Simone Forti et Steve Paxton. La rencontre avec Lisa Nelson est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'elle me fait constater, elle me fait comprendre via son enseignement que danser, c'est aussi observer. Donc elle me laisse finalement la possibilité de prendre la place de celui qui regarde, de celui qui peut chorégraphier. En fait, vraiment, Lisa, c'est la femme qui m'aide à sortir du travail exclusivement de sensations dans lequel j'étais dans Mua, dans laquelle j'étais et j'étais bloquée, je pense, dans tout contre, puisque j'étais interprète et chorégraphe et je n'arrivais pas à me sortir de cette écriture dont je vous parlais tout à l'heure. Et Lisa, fin 98, me permet de comprendre que danser, c'est aussi observer et me donne en fait des outils pour chorégraphier. Je crois qu'elle m'a donné des outils pour sortir, des outils pour comprendre un tableau. Et c'est vrai que cette femme n'est pas plasticienne, mais elle est celle qui m'a donné, je pense, un regard. Et tous ces hommes avec lesquels j'ai collaboré et qui ont parfois été des histoires d'ailleurs d'amour, ces hommes plasticiens, sont des hommes avec lesquels les choses ont été de l'ordre de la fabrication de moi comme interprète de leurs pièces, ou je leur ai commandé des pièces, donc encore une fois, Nicolas, ça a pu être le cas. Mais la femme qui me permet d'être auteur de mon regard, c'est une danseuse.
Et alors, qu'est-ce qu'elle change, Lisa Nelson, dans votre regard sur la danse, Emmanuel Huyn?
Je crois qu'elle m'a autorisée, pour le coup, je crois que j'étais prête à ça, mais elle m'autorise à composer avec tout ce qui existe, c'est-à-dire à accepter l'hétérogénéité des sources, l'hétérogénéité des événements. Je pense que Simone Forti, improvisatrice et qui improvise à la voix en même temps qu'elle danse et qui s'appuie aussi sur sa vie de tous les jours, sa vie de femme. Elle aussi, elle fait beaucoup de jardinage. Ces femmes, en fait, m'ont permis d'accepter que je pouvais m'appuyer sur tout ce que je vivais. Alors, je pense que je le savais intuitivement, mais que je n'osais pas le faire. Voilà, ce qui change, c'est l'autorisation à faire converger des sources totalement hétérogènes. Et je crois que c'est ça, non pas l'explication de distribution en cours l'année d'après, ou 2 ans après, mais en tout cas, c'est pas une explication, mais c'est ce qui fait que ensuite je me tourne vers des formes où sont présentes dans un même temps, dans un même lieu, des activités hétérogènes.
Alors, à la même époque, donc vous vous libérez une sorte de style que vous pouviez avoir, une sorte d'écriture chorégraphique.
Oui, je l'ai eu qu'une demi-fois.
qu'une demi-fois. Mais vous vous libérez aussi puisque vous intégrez un groupe qui naît à cette époque-là, en 1999, je crois, le 20 août, ce qu'on appelle le groupe des signataires du 20 août.
97.
97. Quelle est l'importance de ce groupe, bon, certes pour l'histoire de la danse en France à ce moment-là, mais aussi pour vous, votre parcours à la fois de chorégraphe, d'interprète, et de femmes, en fait.
Alors, c'est un groupe, effectivement, né en juin 97, au moment où il y avait une annonce de la déconcentration des crédits pour la danse en région, et on s'est inquiété, enfin, Alain Michard, à l'époque, s'est inquiété, et je dirais que lui avait une conscience politique beaucoup plus forte que moi, et que beaucoup d'autres danseurs, s'est inquiété de savoir qui, en région, elle serait capable de regarder et finalement d'évaluer nos œuvres. On avait déjà notre travail, on avait déjà un peu des difficultés à être compris. Oui, on avait ce sentiment-là avec une commission nationale, on s'est dit en province, où il n'y a pas de conseiller spécifique à la danse, et ce sont des conseillers musique et danse. Qui va regarder Mua, qui va regarder Abralcor ou Herz de Boris Charmatz, et qui va dire, mais on nous dit déjà tellement, mais c'est pas de la danse. Bon, voilà, on s'est inquiété de savoir comment cette déconcentration, quels seraient les effets sur notre travail et sa réception. Et je dirais, donc, il y a eu une réaction comme ça de survie, une réaction à une décision politique, et ce groupe a été au-delà d'être juste dans une réaction. On a commencé à penser au contexte de réception de notre travail, et ensuite à ce que c'était que notre travail, comment on considérait ce qu'on faisait, comment on pensait qu'on avait été formé, ce qui nous manquait. Donc il y a eu un chantier de 2 ans sur la formation au sein des signataires du 20 août. À l'époque, on se réunissait beaucoup chez Denis Zakharopoulos à Kerguéhennec, puisque certains d'entre nous, dont moi, avions régulièrement des résidences là-bas. Donc on a été hébergés comme ça par des personnes intéressées par ce groupe qui était réactif, qui était à la fois un groupe de pression, un groupe de réflexion, un groupe d'évaluation de notre propre pratique. C'est-à-dire, on se demandait ce qu'on faisait, en quoi on se pensait différent des chorégraphes précédents, en quoi on sentait se rapprocher peut-être de pratiques effectivement de plasticiens ou de gens qui écrivent ou de musiciens. Et pendant 4-5 années, il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait, et aussi, je dois le signaler, vraiment dans la joie et dans l'amitié, même si on avait des options artistiques très, très différentes, hein. On n'était pas dans l'exclusif. C'est justement ce qui a été très beau dans ce groupe, c'est qu'on a pu apprendre à s'écouter, on a pu apprendre à ne pas aimer les pièces des uns et des autres, à pouvoir se le dire, à pouvoir argumenter pourquoi, à pouvoir demander aussi pourquoi, pourquoi les uns faisaient ainsi, à pouvoir aussi s'ouvrir vers des gens vers lesquels on serait naturellement pas allé. Donc il y a eu dans ce groupe une dimension politique de regroupement et aussi éthique de conduite entre nous, je pense, qui fonde aujourd'hui une forme de lien souterrain qui unit encore beaucoup d'entre nous. Donc là où moi je me suis formée, et je pense que ça a été un lieu d'auto-formation très très fort pour l'ensemble des signataires pendant 5 ans, c'est que on a effectivement dû étudier et comprendre la politique culturelle de l'époque. On a dû aussi savoir s'argumenter mutuellement pourquoi on estimait ne pas avoir été bien formé, ou qu'est-ce qu'on pensait qu'était une pièce chorégraphique pour nous aujourd'hui, ou en quoi on s'opposait à une génération précédente, et d'ailleurs on ne s'opposait pas, en quoi on faisait des différences, en quoi on estimait qu'un centre chorégraphique était un outil à réactualiser, ou pour certains quelque chose à complètement ignorer. Donc ça a été un lieu où on a beaucoup échangé, et finalement un lieu de formation. Donc moi je me sens totalement... non pas en dette, puisque j'ai travaillé absolument, mais totalement issue de cette génération, de ce groupe. Et je pense qu'arriver à Angers aujourd'hui est lié aussi à cette appartenance forte et à ce travail commun. Donc je me sens aussi investie d'une forme de mission ou de continuité, de continuation d'un projet commun. C'est-à-dire que pour moi, Angers, il y a effectivement le fait d'avoir un outil et de pouvoir continuer mon propre travail, mais il y a aussi une dimension de bien commun dont je me sens porteuse pour Angers, notamment pour l'école.
On en reparlera cette semaine, Emmanuel Huyn. Mais en quoi étiez-vous différente des chorégraphes qui vous avaient précédé, à savoir, pour aller vite, les chorégraphes des années 80, chez qui, justement, certains d'entre vous et vous-même, vous aviez été interprète?
Bon, c'est difficile de dire en quoi on se sent différent, parce que je dirais qu'il y a une... Parler de génération n'est pas toujours très juste. C'est plutôt... Il vaut mieux parler de paradigme de travail. Voilà, je me sens en génération très proche de Lisa Nelson, qui a 55 ans, de Simone Forti, qui en a 65. Je me sens aussi... proche
de Trisha Brown,
des
Américaines.
Des Américaines, proche aussi d'une période de Trisha. Il y a des choses aujourd'hui, voilà, que je reconnais moi, mais proche de son engagement de danseuse à l'époque de la Judson Church. Proche aussi dans l'amitié, très proche de Mathilde Monnier, qui elle, depuis 3 ans, réinterprète le centre chorégraphique de Montpellier après Potlatch, qui est une sorte de dérive. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas parler vraiment de génération, mais plutôt d'une façon de penser la danse comme un lieu ouvert, un lieu dont on part, et qui envahit sans doute d'autres endroits, et d'un lieu qui accueille, d'une puissance envahissante et d'une puissance qui reçoit aussi. Donc je me sens proche de... Enfin, je me sens dans ce paradigme-là, et je crois que les femmes que je viens de citer, ou les artistes que je viens de citer, mais pour revenir plus précisément au signataire, je crois que ça a été un groupe où on a élucidé que nos pièces, si on parlait profondément du chorégraphique, étaient des pièces d'abord qui tentaient de réfléchir à la condition de leur émergence, dans une certaine mesure des pièces qui critiquaient... une partie aussi de l'histoire de la danse, donc des pièces réflexives à certains moments, et des formes de fonctionnement aussi, donc oui, de là où on venait. Donc c'est vrai que à un certain moment, je me suis sentie en opposition artistique de là où j'étais issue, d'Ile du Boc, d'où je venais, des pièces aussi d'Hervé Robe, et le fait de pouvoir continuer aussi d'être interprète a été rendu possible parce que je faisais mon propre travail, ou parce que aussi j'avais élucidé dans ce groupe là où je pouvais me situer. Mais en gros, c'est une attitude de chorégraphe qui se nourrit de beaucoup d'autres champs et qui se permet aussi, qui s'autorise peut-être d'autres médiums pour pouvoir, et qui fait acte de chorégraphe à cet endroit. C'est-à-dire, je me suis trouvée à finalement faire une installation sonore, en 2002 avec Cécile Le Prado, sur une commande de François Quintin, donc directeur du FRAC Champagne-Ardenne, il me semble que je signe cette installation sonore où il n'y a pas de danse vraiment comme une chorégraphe.
Tout à l'heure, vous citiez Lisa Nelson, vous citiez Simone Forti, donc deux performatrices jardinières américaines qui vous avaient libéré de quelque chose, qui vous avaient donc autorisé à prendre la parole en votre nom propre. Il y a un lien donc qui me semble plus, je ne sais pas de quelle nature vous pourriez le qualifier, avec la personnalité ou la danse de Trisha Brown.
La danse de Trisha, la personnalité de Trisha Brown.
Que vous avez étudiée, oui. Avec qui vous avez travaillé au niveau d'entretien.
Oui, oui, j'ai fait des entretiens avec Trisha de 92 à 2000. Et je me suis vraiment intéressée à comprendre tous les cycles par lesquels elle était passée. Et c'est vrai que la période, on va dire, clé, la période qui fait le lien entre l'extérieur, là où elle faisait ses performances, et son entrée dans le théâtre. Donc le lien entre les pièces qui s'appellent Equipment Pieces, qui sont des pièces où la pièce, par exemple, fait descendre un de ses danseurs à la verticale, à l'horizontale, pardon, d'un immeuble, harnaché, donc retenu par un harnais. Ces pièces d'équipement sont des pièces qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Et elle fait le lien avec le... Elle rentre dans le théâtre ensuite, je crois en 79. Cette entrée dans le théâtre, ou comment continuer, on va dire, de poser des questions à la fois éminemment politiques et des questions de danse tout en restant dans le théâtre, ça a été pour moi quelque chose d'assez important. Si j'ai peut-être fait l'inverse, moi j'ai peut-être été dans le théâtre et je suis sortie après ou tout de suite... Mais cette femme a fonctionné pour moi comme un guide pendant longtemps, parce que elle est issue aussi de cette génération Judson qui s'essayait à tout. C'est-à-dire, je crois qu'ils ont été tous réunis par les questions de composition, par les ateliers de composition de Robert Dunn, qui donnait par exemple des exercices. Qu'est-ce que c'est qu'une danse d'une minute ? Et Trisha, Lucinda Childs. Cage même s'employait à répondre à ces formats en disant, en répondant eux-mêmes depuis leur propre médium. Et là où je pense être une héritière de, ou en tout cas de me situer dans la lignée de Trisha, c'est d'aimer ces défis à la danse ou ces questions pointues à ce qu'est la danse. Je crois qu'aussi la façon dont elle-même a conduit son corps, dirigé son corps, c'est-à-dire sa pratique de danseuse, la façon dont elle-même s'est entraînée, la façon aussi dont le mouvement est conduit chez elle, c'est-à-dire que l'initiation peut être donnée par une partie du corps et le geste se propage dans tout le corps, a aussi été une éducation forte pour moi à travers elle et à travers ses danseurs. C'est-à-dire qu'à partir de 92, 93, toute une génération d'interprètes de Trisha Brown sont venus enseigner en France. Donc c'est l'arrivée des releases techniques et des techniques somatiques dans la danse française qui a aussi révolutionné une façon de bouger. Et je dirais que Trisha est rentrée en moi physiquement de cette façon-là aussi, à travers ses interprètes. Moi j'étais encore chez Hervé Robe. Cette façon de bouger, de se concentrer, de prendre le mouvement a aussi été totalement libératoire. C'est-à-dire qu'à l'endroit où il y avait une forme de tenue, une forme de contenance et de parfois de rigidité dans mon propre corps, il y a eu un travail sur la détente, un travail sur la disponibilité et sur la libération. Et ça, c'est vraiment la rencontre avec le geste de Trisha qui a rendu ça possible.
Laurent Goumard s'entretenait avec Emmanuel Huyn, prise de son Carole Sandevoir. Réalisation Viviane Noël, demain, distribution en cours.